La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h.
Lorsqu'il arrive au monde, le nouveau-né se trouve précipité dans un tourbillon auquel lui comme sa maman vont être confrontés. Et au milieu de ces multiples chamboulements, le respect de la physiologie du bébé est une loi fondamentale. Voilà ce que dit en préambule de son livre et au cœur de son ouvrage la pédiatre Bernadette Lafollet, qui forme depuis 40 ans les professionnels de la périnatalité. Aujourd'hui formatrice en accueil du nouveau-né, Bernadette Lafollet va nous parler évidemment de ce métier des maternités, de l'évolution des pratiques basées sur les apports des recherches scientifiques. Elle publie donc cet ouvrage sur les vrais besoins des bébés. Elle est mon invitée donc dans un instant pour nous raconter ce qu'elle a retenu de plus essentiel dans ce domaine. Elle répondra à toutes vos questions. Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant sur le site de l'émission franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui les effets de la perte de biodiversité.
Oui, avec une expérience unique au monde menée en Suède pendant 20 ans pour mesurer l'impact de la perte d'espèces sur les écosystèmes. Nicolas Fanin de l'INRA qui a participé à l'étude nous raconte dans un instant.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette tête au carré préparée par Chantal Le Montagnier avec Hannibal Watchi.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Bernadette Lafollet.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue dans l'émission. Vous êtes pédiatre et vous publiez donc cet ouvrage « Les vrais besoins de votre bébé » aux éditions Les Arènes. Un livre qui propose une troisième voie entre une prise en charge hyper sécuritaire ou la naissance naturelle, entre guillemets d'ailleurs. C'est le juste équilibre qui est vraiment bénéfique au bébé ?
Oui, parce que on a oscillé entre les deux voies depuis les années 70 et entre 70 et 2000, on a été on a penché beaucoup vers l'hypermédicalisation, ouais. Et actuellement, on revient vers une voie plus physiologique avec le respect de tous ces atouts qu'ont les mères et les bébés pour donner naissance à cet enfant et entrer dans ce nouveau monde.
La physiologie, c'est le mot clé vraiment de cette discussion qu'on va avoir ensemble dans un instant.
La médecine est là pour aider quand il le faut, mais dans la plupart des cas, tout est là pour que tout se passe au mieux.
Allez,
pour les deux.
Vous allez répondre aux questions des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission franceinter.fr. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Avec une expérience suédoise unique au monde aujourd'hui à la une de la science pour comprendre l'impact de la perte de biodiversité sur les écosystèmes. Pendant plus de 20 ans, des chercheurs suédois et français ont simulé des pertes justement de biodiversité dans un archipel de 30 îles forestières au nord de la Suède. Leur conclusion parue la semaine dernière dans la revue Nature était très attendue et Axel, on en discute avec l'un des auteurs français de l'étude.
Oui Mathieu, nous sommes en direct avec Nicolas Fanin qui nous parle depuis les locaux de France Bleu Gironde. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écologue et chercheur pour l'INRA au laboratoire Interaction Sol Planté Atmosphère à Bordeaux. Hervé Kempf est avec nous en studio également pour Reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Hervé.
Bonjour Axel. Bonjour Mathieu.
Alors Nicolas Fanin, c'est une expérience, on peut dire, de simulation en pleine nature qui a été menée sur ces îles. Pourquoi est-elle si unique ? Racontez-nous un peu ce que vous avez fait avec ces chercheurs suédois.
Alors tout d'abord, ces îles, elles représentent un gradient qui va des îles très jeunes à des îles très vieilles, ce qui nous permet en fait d'évaluer les pertes de biodiversité dans des écosystèmes très contrastés. Et on a recueilli, c'est depuis 1996, des données qui nous permettent d'analyser si la perte de biodiversité est similaire en fonction du type d'écosystème.
Alors pourquoi ces îles représentent un gradient ? Qu'est-ce que ça veut dire une île jeune et une île vieille ? Expliquez-nous un petit peu ce que ça veut dire.
Alors les îles, en fait, elles ont brûlé à différentes périodes et lorsqu'il y a du feu, on va avoir un reset à zéro de l'île. Et ces îles ont brûlé il y a plus ou moins longtemps, donc c'est-à-dire pour les îles les plus jeunes, de 500 à 1000 ans, et pour les îles beaucoup plus vieilles, jusqu'à 5000 ans. Et au fur et à mesure du temps, il va y avoir une succession dans la végétation qui va faire que les végétaux vont être différents en termes de dominance, mais également les conditions physico-chimiques du sol, la fertilité, la productivité va varier entre ces différentes îles.
Pourquoi elles ont brûlé d'ailleurs, s'il vous plaît, Nicolas Fanin ?
Alors, Alors, elles ont brûlé de manière, en fait, naturelle. C'est simplement les plus grandes îles ont une plus grande chance d'interception de la lumière. Donc, elles ont plus de chances de brûler. C'est pour ça qu'elles sont souvent beaucoup plus jeunes, entre guillemets. Alors que les îles beaucoup plus vieilles, elles sont très petites. Donc, elles ont une chance de brûler et d'interception de la lumière beaucoup moins importante que les grandes îles.
Donc en fait, ce qui est unique, c'est surtout ces îles et leur différence d'âge qui vous permet de faire plein d'expériences. C'est ça qu'il faut voir.
Également, il faut aussi noter que sur ces îles, donc il y a l'aspect gradient, l'aspect donné sur 20 ans, mais il y a aussi l'aspect finalement manipulation de la biodiversité au cours de ces 20 dernières années.
Donc les chercheurs sont allés sur chacune de ces îles pour supprimer des espèces tout simplement et regarder comment l'île réagissait, c'est ça ?
Exactement. Alors, il faut savoir que ces îles, ce sont des îles boréales. Donc, on y trouve tout type de végétation, comme les mousses, les buissons, les arbres. Et en fait, on a agi sur chacune de ces îles. Mes collègues, au préalable, et puis moi, au cours de ces dernières années, pour enlever des buissons de manière contrôlée, pour voir les différences qu'il y avait lorsqu'on avait une, deux, trois espèces, et voir si la perte de ces espèces était la même en fonction du type d'île, à savoir des îles plutôt jeunes comparées à des îles plutôt vieilles.
Alors, 20 ans de données récoltées sur ces îles, c'est énorme en écologie des écosystèmes. Quelles sont les principales conclusions alors que vous en tirez ?
Alors, la principale conclusion de cette étude, c'est qu'il y a un effet contexte dépendant de la perte de biodiversité.
Ça veut dire quoi ?
Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre pour les auditeurs, c'est que la perte de biodiversité est importante dans tous les types d'écosystèmes, mais qu'il faut connaître les espèces et dans quels écosystèmes elles sont perdues.
Ça veut dire que certaines espèces sont moins importantes que d'autres dans les écosystèmes ?
Alors, je ne dirais pas qu'elles sont moins importantes, mais certaines espèces vont être dominantes. Donc, je vais vous donner un exemple. Sur les îles jeunes, on va plutôt avoir une dominance au niveau des arbres, du pin et au niveau des buissons, des myrtilles. Alors que sur les îles anciennes, on va plutôt avoir des épicéas et de la camarine en termes de buissons. Mmh. Et si l'on perd, par exemple, les myrtilles dans les îles jeunes ou dans les îles vieilles, on ne va pas avoir les mêmes conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes.
Est-ce qu'il y a un impact de l'âge directement, sans parler des espèces qui sont présentes sur la résistance des écosystèmes ?
Alors, il y a un effet, effectivement, de l'âge des écosystèmes, c'est-à-dire que les écosystèmes les plus âgés sont un petit peu plus impactés que les écosystèmes jeunes face à la perte de biodiversité. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la perte de biodiversité est importante entre tout type d'écosystèmes. Et qu'on soit sur un écosystème jeune, un écosystème ancien, si l'on perd des espèces, on va probablement avoir une diminution au niveau de la biomasse des plantes, mais également en termes de processus des écosystèmes.
Hervé Kev, pour Reporter.net, a une question à vous poser.
Je suis un peu bête, mais c'est pas une évidence que vous dites, c'est-à-dire que la biodiversité, eh ben, il faut que les systèmes soient dépendent. Enfin, l'écosystème, c'est la biodiversité quelque part. Donc, qu'est-ce que vous nous dit votre étude par rapport à l'idée que de toute façon la biodiversité a besoin d'être diverse pour mieux résister ?
Nicolas Fanon.
Ce qui est intéressant en termes scientifiques, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes de pourquoi finalement la biodiversité est importante. C'est pas juste d'avoir un catalogue d'espèces ou une collection, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les espèces interagissent entre elles. Est-ce qu'il y a de la complémentarité entre ces espèces ? Et en ayant ces approches de removal au sein d'écosystèmes naturels, c'est-à-dire de suppression, on va pouvoir finalement essayer d'évaluer les interactions qui existent entre espèces et essayer de mieux comprendre si ces interactions sont les mêmes entre tout type d'écosystème ou non, et pourquoi.
Alors Nicolas Fanin, vous parliez des espèces clés, celles qui stabilisent l'ensemble. Est-ce qu'on peut facilement les identifier dans n'importe quel écosystème ailleurs que sur une île ?
Alors il faut savoir qu'il y a de nombreuses études au travers de la planète, mais en général les études sur la biodiversité c'est plutôt des manipulations, c'est-à-dire on va créer nous-mêmes des parcelles où on va mettre un certain nombre d'espèces, par exemple de 1, 6, 24, 64 espèces, et on va essayer d'évaluer finalement le rôle de cette biodiversité. Ici l'approche elle est à l'inverse, donc on va vraiment avoir une approche de suppression, ce qui va nous permettre d'identifier quelles sont les espèces qui jouent un rôle clé, et nous ce qu'on a démontré c'est que finalement les espèces jouent un rôle clé en fonction de l'écosystème dans lequel elles sont. Également, les espèces rares peuvent jouer un rôle, mais il faut évaluer finalement, il faut connaître à la fois l'espèce, ce qu'on connaît de mieux en mieux, l'écologie de cette espèce, mais aussi mieux comprendre dans quel écosystème elle se trouve et quelles sont les interactions de cette espèce donnée avec les autres buissons, voire les groupes fonctionnels de plantes qui l'entourent.
Alors, Hervé. Les îles, c'est des écosystèmes très particuliers. Sur quel type d'autres écosystèmes imaginez-vous de reproduire ce type d'expérience ?
Alors, on pourrait essayer d'imaginer, par exemple, je travaille actuellement en collaboration avec Montpellier, le CNRS, sur les Alpes. où on a différentes attitudes et on regarde aussi l'effet de la biodiversité. On pourrait imaginer des gradients, comme par exemple autour de Bordeaux, depuis les dunes vers des écosystèmes plus âgés de pins, où on pourrait essayer d'évaluer la perte de biodiversité du sous-bois. En fait, il faut essayer d'imaginer des expériences à long terme, c'est-à-dire démarrer maintenant et peut-être éventuellement dans 20, 30 ans, avoir des résultats vraiment robustes. Donc c'est pour ça, c'est un effort de long terme. Il faut vraiment qu'il y ait des politiques publiques et aussi en termes scientifiques qui soutiennent ces efforts-là de recherche sur le plus long terme.
Et c'est vrai qu'avec cet archipel suédois, hein, donc d'une trentaine d'îles, vous avez vraiment un modèle scientifique exceptionnel, là, Nicolas Fanin. Hein. C'est rare de pouvoir reproduire une telle expérience, non ?
Alors c'est tout à fait rare parce que il faut savoir qu'en plus quand on a des îles, ce sont des écosystèmes tout à fait indépendants. Donc il y a très peu de choses qui entrent ou qui sortent. Alors que d'habitude, lorsqu'on étudie la biodiversité, par exemple lorsqu'on travaille dans une forêt, on va avoir différents blocs, mais finalement tout communique. La forêt est reliée par les animaux, les précipitations, le vent. Alors qu'ici on a vraiment des écosystèmes qui sont vraiment indépendants. C'est comme si on étudiait finalement une trentaine de forêts à l'échelle de la France.
Bravo en tout cas pour cette étude, ce travail au long cours publié dans la revue Nature, Nicolas Fanin. Merci aux équipes de France Bleu à Bordeaux qui nous accueillaient, qui nous permettaient ce duplex. Hervé, on jette un coup d'œil sur la une, sur le sommaire de reporter.net.
Ouais, bah, beaucoup de biodiversité encore. Alors d'abord avec une mauvaise nouvelle, il y a une espèce très envahissante qui s'appelle le béton et qui veut détruire la biodiversité sur le triangle de Gonesse au nord de Paris, là où il y a quasiment les dernières très bonnes terres agricoles de l'Île-de-France.
C'est quoi comme bestiole ?
Ça s'appelle un grand centre commercial.
D'accord, pardon.
Dirigé par je ne sais quel scientifique chez Auchan.
Vous m'avez voilà. Eu. J'y tiens le béton, c'est une nouvelle espèce, bon.
Et puis, plus optimiste, heureusement aussi, mais biodiversité, un jardin coopératif dans la Drôme, c'est les jardins nourriciers. Et ils travaillent ensemble à faire un très beau jardin. Ils disent aussi qu'ils se préparent à l'effondrement des sociétés par la crise écologique, donc autant s'y préparer en apprenant à jardiner.
Merci beaucoup Monsieur Béton, on vous retrouve sur reporter.net avec toutes ces infos, et puis Axel demain à l'une de
demain.
La science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, doit-on considérer Pluton comme une planète ? Le débat qui n'en finit plus gagne une nouvelle théorie selon laquelle Pluton serait en réalité une comète géante grâce aux images de la planète de la plaine Spoutnik rapportées par New Horizon et les données chimiques de Tchoury recueillies par la mission européenne Rosetta. Des chercheurs de San Antonio ont déduit que Pluton pourrait être un agrégat de milliards de comètes et d'autres objets de la ceinture de Kuiper, ce qui expliquerait l'importante quantité d'azote présente dans les glaciers de cette planète. Les molécules toxiques présentes dans la fumée blanche des barbecues sont absorbées par la peau, selon une étude chinoise. Cette voie cutanée serait même plus nocive que l'inhalation des fumées, en permettant aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, les fameux HAP, issus de la combustion des viandes, d'entrer justement dans l'organisme. Les scientifiques ont également démontré que les vêtements n'offrent qu'une protection partielle contre ces composés nocifs et cancérigènes. Les vêtements en coton seraient tout de même les plus efficaces pour s'en protéger. Et puis le top 10 des nouvelles espèces découvertes en 2017 a été établi par le Collège des sciences environnementales de New York. Bactéries volcaniques, lions, marsupiales et coléoptères infiltrés. La sélection de cette année semble être la plus variée en nous faisant voyager des fonds marins aux immenses arbres d'altitude. Retrouvez en photo justement l'une de ces 10 espèces sur notre page Facebook. Allez, les vrais besoins des bébés, c'est le dossier de l'émission dans un instant.
hide it, and it didn't take forever to find it. I was all on my own, almost glad to be alone, until love came in on time. Oh, on time. Loving is easy. You had me fucked up. It used to be so hard to see. Yeah, loving is easy when everything's perfect.
Rex Orange County avec Loving is Easy.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Bernadette Lavollet, vous êtes pédiatre et formatrice en accueil du nouveau-né et en allaitement dans les maternités et les services de néonatologie. Et vous publiez ce livre, Les vrais besoins de votre bébé, les découvertes qui révolutionnent la naissance et les premiers mois. C'est aux éditions Les Arènes. Le livre est sorti et les auditeurs nous rejoignent déjà avec des messages, des questions pour vous, franceinter.fr. Et le mot-clé, l'attaque, 40 années de carrière, Bernadette Lavollet, des milliers de bébés rencontrés donc au fil des consultations. Et aujourd'hui, donc, le fruit de vos observations, hein, c'est ça aussi l'objet de ce livre. C'est de faire le point au fond sur les connaissances et de dire ce qui convient le mieux au premier mois d'un nouveau-né, c'est ça vraiment l'idée?
Oui, c'est de faire avancer les pratiques pour donner aux bébés et aux parents les meilleurs atouts pour rentrer dans cette nouvelle vie. Ils ont tout ce qu'il faut. L'hypermédicalisation des années 70 aux années 2000 a été établie pour des raisons de respect essentiellement de la sécurité.
Ouais. Mais donc ça partait plutôt d'un bon sentiment.
Tout à fait.
Hein.
Tout à fait. Et on a sauvé beaucoup de prématurés, beaucoup de nouveau-nés. On a amélioré vraiment le sort des bébés et des mamans. Mais au prix notamment de souffrance et de stress pour le nouveau-né. Et on connaît maintenant les effets du stress, les effets négatifs du stress sur le cerveau notamment. Mmh. Et lors de ses premiers instants de vie, c'est tellement plus confortable pour l'enfant de s'asseoir sur des bases beaucoup plus bienveillantes et de bien-être et de respecter tous les atouts sensoriels qu'il avait déjà dans sa vie fœtale et d'avoir ce prolongement, de ne pas interrompre ça brutalement par des gestes qui ne sont pas nécessaires. Ça change vraiment l'entrée dans la vie.
Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches scientifiques qui sont menées? Parce que vous faites allusion à ça, c'est même là-dessus que repose votre ouvrage, hein, c'est de se baser vraiment sur la recherche aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses dans ce domaine de la néonatalité?
Oui, oui. Alors, notamment, on a aussi pris exemple sur les pays nordiques, la Suède, là aussi, qui est un pays qui vraiment nous a montré que en respectant la physiologie, on a des résultats, même sur le plan de la mortinatalité, et que la non-séparation du bébé à la naissance de s'appuyer sur les cinq sens du bébé et de la mère, et notamment par le pot à pot, je pense qu'on va en reparler.
Oui, bien sûr.
C'est une assise fondamentale pour que le bébé s'adapte au mieux à la vie extra-utérine et à ses premières semaines de vie.
Oui. Alors, il y a aussi ces dernières décennies, et même ces dernières années, hein, qui ont été marquées par les débats aussi autour de toutes ces questions. Et là, très récemment, la violence obstétricale, qui était au cœur aussi des questions. Ça, c'est un terme que vous employez aussi?
Alors, moi, je ne l'emploie pas pour les mères, je suis pédiatre, mais je l'ai ressenti et je pense qu'on pourrait presque l'employer aussi pour les bébés. Les bébés, hélas, n'ont pas voix au chapitre, donc c'est nous qui devons parler en leur nom. Et je pense qu'ils ont vraiment, eux aussi, et eux surtout, besoin de bienveillance, de bien-être, de sécurité, et que ça, c'est apporté par leurs cinq sens notamment, et par le respect de tous ces sens, et ne pas leur mettre un stress inutile. S'ils ont besoin de gestes pour survivre, bien sûr il faut les faire, mais je pense que 90% environ des bébés naissent avec tout ce qu'il faut pour s'adapter au mieux.
On va écouter la voix d'une sage-femme qui s'appelle Alexandra Mathias. Elle est sage-femme et modératrice d'une page Facebook qui s'appelle Paye ton gynéco. Elle s'exprimait justement en mars dernier sur la question des violences.
On nous apprend de toute façon à rester dans le moule, à rester dans le cadre, à suivre les protocoles et puis c'est tout. Ça demande une remise en question très profonde de tout ce qu'on nous apprend. Est-ce que je suis vraiment la sage-femme bienveillante que je pense être ? Est-ce que je sais vraiment accompagner un accouchement physiologique ou pas ? Après, j'ai accouché aussi, et puis c'est quand même un petit peu après cet accouchement que je me suis posé des questions, justement, sur ces protocoles et sur ce que je pouvais faire subir aux patientes, quoi. Ces suivis de travail, qu'il fallait pas dépasser un certain temps, qu'il fallait vraiment absolument que la dilatation du col se fasse un centimètre par heure, c'est un centimètre par heure, c'est comme ça, il faut que ça avance. Si ça met deux heures, c'est trop long. On peut éventuellement dépasser, mais il faut demander au médecin si c'est ok ou si c'est pas ok. Enfin, c'est un peu, il faut déconstruire sa pensée parce qu'on est tellement formaté que on suit le moule, quoi.
Voilà, elle s'appelle Alexandra Mathias. Bernadette Lavollet, une réaction justement sur les propos de cette sage-femme ?
Oui, nos pratiques sont dominées par la peur et par l'esprit que j'appelle sécuritaire, c'est-à-dire que on a maintenant aussi les juges derrière nos pratiques, qui sont là à guetter le moindre incident ou accident, et que ça rend tout le monde assez méfiant, et on a peur. Et puis les contraintes pratiques, économiques, pèsent très lourd sur nos pratiques de l'accouchement, et on ne se donne pas le temps et la confiance dans les mères, la confiance dans les bébés, sur le pouvoir de leur corps, et oui, c'est vraiment dominé par la peur. Je voudrais que remettre la confiance au cœur de nos pratiques de soins, au cœur des mères, des pères, et la reconnaître les compétences et les atouts qu'ont les mères et les bébés pour
Et
pour
ça va naissance. Dans les deux sens, cette affaire de confiance, hein. C'est évidemment la maman envers l'équipe médicale, mais aussi l'équipe médicale envers le bébé et sa mère.
Oui. Et ça instaure, la sage-femme parle de protocole. C'est vrai que ça aide dans les situations d'urgence, mais ça nous a coincés dans des pratiques extrêmement stéréotypées, sans écouter suffisamment les souhaits de la mère et donner naissance à ses propres ressources et à cette force, cette puissance qu'ont les mères pour donner naissance, et cette faculté qu'ont les bébés, ces atouts qu'ils ont pour s'adapter à ce nouveau monde et y rentrer, si possible, dans le bien-être et la bienveillance.
Bernadette Lavollet, la première question que nous avons reçue sur le site de La Tête au Carré, c'est celle d'Aurélien, qui pose la question des pères. Il aimerait bien savoir si leur rôle a évolué, et justement, vous consacrez un chapitre aussi au papa dans cet ouvrage.
Oui. Alors, les pères, par le pot à pot que nous pouvons leur proposer, quand la maman est dans la capacité ou ne souhaite pas faire le pot à pot à la naissance, par exemple, lors des césariennes, on peut faire du pot à pot avec la maman, mais ça pose tout de même quelques petites difficultés. Et le pot à pot avec les papas, et en néonatologie aussi, pour relayer la maman, ou pour avant la maman qui ne peut pas, pour des raisons médicales, venir tout de suite auprès de son bébé faire ce pot à pot, c'est une révolution fabuleuse.
Ouais, on rappelle le principe peut-être du pot à pot, parce que ça paraît même évident dans le terme. Mais...
Les bébés sont mis thorax contre thorax sur l'adulte, la maman ou le papa, qui doit être en position verticalisée, jamais à plat complètement, et on pose le bébé thorax contre thorax en maintenant bien sa tête contre le sternum pour que toujours pouvoir le regarder et que ses voies aériennes soient bien dégagées. Il faut que le bébé soit suffisamment bien sur le plan des grandes constantes vitales. Et là, s'il est accueilli en peau à peau sur la maman ou sur le papa, ou le prématuré qui peut faire des séjours d'une heure, deux heures, voire encore plus bien sûr, sur le papa ou sur la maman, ça modifie le bébé, il a les meilleures constantes à ce moment-là au niveau cardiovasculaire, respiratoire, la température va être améliorée, il va se coloniser avec les germes du papa ou de la maman, de la famille, qui sont des bons germes par rapport aux germes hospitaliers. Il va avoir moins de douleurs, moins de stress, et la maman va développer des hormones, notamment l'ocytocine, qui va l'envahir et qui va la conditionner pour répondre au mieux aux besoins de ce bébé.
C'est l'hormone de l'attachement.
L'hormone de l'attachement et l'hormone de l'allaitement. Et le papa, s'il n'a pas l'allaitement, il aura l'attachement. Il va être plongé dans la bassine de la paternité avec une... il va être totalement ébloui, subjugué, ému d'une façon majeure. Et il va garder ça.
Donc il a ce rôle à jouer aujourd'hui. Et rôle qui a quand même beaucoup changé ces 50 dernières années.
Ça
c'est quand même,
transforme totalement. Donc, on travaille justement avec toutes les équipes à ce que les papas soient présents en maternité 24 heures sur 24. La maman, bien sûr, c'est elle la plus impliquée physiquement, mais elle a besoin de soutien, elle a besoin d'appui. Et le premier appui, c'est souvent le papa. Si c'est pas le papa, c'est la personne choisie par la maman. Et c'est très important qu'on ouvre à toutes ces situations et aux souhaits de la maman, et qu'on puisse dialoguer avant pour avoir entendu et préparé tout cela. Ça nécessite une préparation et un dialogue.
Et les pères ont leur place dans cet ouvrage, Les vrais besoins de votre bébé, aux éditions Les Arènes. Bernadette Lavollet, vous êtes notre invitée cet après-midi dans La Tête au Carré.
Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Une étoile filante me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. De brume dans mes yeux délavés. Aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. Aucun quartier de lune, aucun et demain. Tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final, quand je prendrai le large. Aucun autre décor, aucun autre que toi. Aucune clé à bord, aucune chance pour moi. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final, quand je prendrai. Aucun requin, aucun air triste, aucun regret, aucun séisme, aucune langue de bois. Et demain, tout ira. ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai de l'âge, tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large.
Le large, extrait de son dernier album Françoise Hardy.
La tête au carré sur France Inter.
En France, pendant les trois derniers mois de la grossesse, les femmes sont soumises à une éducation, 6 séances, explique à la femme, en fonction des doctrines de Pavlov, les moyens de conditionner la douleur. La femme jusqu'alors était passive. Le mérite de Pavlov, c'est d'avoir prouvé que le cerveau peut exercer une action freinatrice ou excitatrice sur la soi-disant fatale douleur.
Et en ce qui concerne la réalisation pratique de cette méthode, quelles en sont les conditions ?
Il faut tout d'abord un personnel nombreux et éduqué. Il convient que la femme, pendant son travail, ait toujours auprès d'elle, en permanence, quelqu'un. Il faut un confort certain.
Vous pratiquez cette méthode depuis combien de temps à Paris, docteur ?
Depuis 2 ans.
Et j'imagine que ce sont les femmes que vous avez accouchées sans douleur qui sont les meilleures propagatrices de votre méthode.
Bien entendu.
Voilà, il s'appelle Fernand Lamaze. C'était en 1954. Archive donc de ce neurologue obstétricien et résistant français d'ailleurs, hein, reconnu comme le développeur de la méthode d'accouchement sans douleur qui porte son nom. Bernadette Lavollet, vous qui publiez donc Les vrais besoins de votre bébé, vous en parlez évidemment, hein, parce que vous faites une rétrospective de tout ce qui s'est passé ces 50 dernières années dans ce domaine de la naissance. Alors, je vous voyais réagir justement aux propos de Lamaze. Qu'est-ce qui vous faisait réagir précisément alors en l'écoutant ?
Alors, la première chose qui m'a fait réagir, c'est la présence de quelqu'un en permanence. Or là, on en est loin actuellement en France, avec les réductions de personnel, la difficulté qu'ont toutes les sages-femmes et les soignantes à travailler actuellement dans le stress et cette immédiateté, cette rentabilité qui sont à l'encontre justement de toutes ces valeurs que nous attendons de la naissance, de l'accouchement. Alors Lamaze a fait progresser d'une façon fabuleuse la prise en compte de l'accouchement. Alors l'appeler sans douleur, il y a eu un petit leurre là-dessus. Actuellement, on prône la péridurale comme la méthode quasiment universelle et les hôpitaux, les maternités sont cotées au mieux quand elles ont 80-90% de péridurale. Alors que, justement, ce qu'avait montré le docteur Lamaze, c'est que la femme était capable de s'approprier cette douleur différemment pour en faire un atout et grâce au cerveau, aux endorphines, à toutes ces mécanismes physiologiques, quand on respecte...
On peut fabriquer soi-même des antidouleurs, au fond.
Voilà. Ce que cherchent les gens qui font du jogging et de la course de fond, ils se fabriquent des catécholamines, des adrénalines et des endorphines, des stimulants. Et c'est ça qu'a la femme lorsqu'elle accouche physiologiquement. Et on en fait un atout de cette douleur, au lieu de la montrer comme quelque chose d'épouvantable. On a actuellement des accompagnements avec l'hypnose, avec le yoga, avec l'acupuncture. On a beaucoup d'autres accompagnements possibles, mais il faut une présence humaine. Et ça, c'est ça qui est difficile actuellement.
Alors, il faut imaginer le contexte quand même, les années 50. D'abord, il y a plein d'idées qui ont été prises aux Russes, hein, c'est ça ? C'était le départ de cette nouvelle culture au fond de la naissance.
Oui. Hein. Pavlov, que tout le monde connaît avec son réflexe salivaire quand on lui montre des bons petits plats, avait fait des travaux. Et donc, le docteur Lamaze a découvert ça en allant en Russie. Et là, donc, tout de suite, il n'a eu qu'une envie, c'est de propager cette méthode en France pour soulager les mamans.
Oui. Est-ce que beaucoup de maternités s'en sont inspirées alors après ?
Ah oui, des années 70, 60, oui, entre 60 et 80, 90, ça s'est généralisé, effectivement. Après ça, la péridurale est venue un petit peu remplacer et en tout cas être montrée comme la panacée pour toutes les mamans.
Caroline nous écrit « J'ai été dépossédée, dit-elle, du pot à pot sous prétexte de césarienne, alors que j'étais parfaitement consciente. Il s'agissait clairement de mauvaise volonté de la part de l'équipe médicale. J'en souffre énormément. Rien ne me rendra jamais ce moment que j'attendais tant. Et je sais que ça va influencer toute la vie de mon fils dans sa confiance en lui, dans notre relation. Le tout dans une maternité soi-disant amie des bébés. Je suis écœurée, révoltée, dit-elle.
Oui, alors les maternités amies des bébés, c'est un label.
C'est un label, hein,
c'est ça. Un label qui existe depuis les années 90, qui a été mis en place par l'OMS et l'UNICEF. Donc actuellement, c'est l'UNICEF qui le donne. Et 12 conditions sont dans ce label. Les maternités qui font le chemin pour être labellisées doivent répondre à ces 12 critères. Et notamment, parmi ces critères, c'est la non-séparation, hein, 24 heures sur 24, et lors de la naissance, la première heure surtout, si possible les deux premières heures, mais la première heure, de ne pas séparer du tout, par aucun geste, le bébé qui est posé immédiatement en peau à peau sur la maman. Alors, lors des césariennes, de plus en plus de maternités accueillent en peau à peau lors des césariennes, mais il faut se rendre compte qu'il y a des contraintes tout de même matérielles importantes, notamment le froid. Le froid dans les salles de naissance, les salles d'op et les salles de naissance. Et puis matériellement, il faut un champ stérile, il faut donc beaucoup de maternités s'y mettent et ont trouvé le moyen de le faire tout de même. Mais quand on ne peut pas le faire avec la maman, à ce moment-là, souvent on propose au papa. Et pour les mamans, ça leur fait accepter cette césarienne qui parfois n'était pas prévue, de savoir que le papa a
prend le relais
et faire remplir ce rôle, ça peut rapprocher beaucoup de couples et consoler un petit peu la maman. Là, celle dont vous nous parlez, hélas,
n'a Caroline.
Pas... Caroline, oui. Alors, c'est vraiment, je comprends, hein, sa tristesse de ne pas avoir eu ce peau à peau à la naissance, mais il faut comprendre aussi les contraintes matérielles que cela impose.
Oui, hein.
Et il faut que toute l'équipe soit bien préparée et bien préparée tout cela.
Est-ce qu'on peut la rassurer lorsqu'elle dit justement ça va influencer toute la vie de mon fils, dans sa confiance en lui, dans notre relation?
Non. Alors, si on n'a pas pu faire ça la première heure, le cerveau humain a un potentiel extraordinaire, hein, la plasticité cérébrale, ça c'est la richesse humaine, ce qui ne se fait pas à un moment donné, on peut le rattraper. Alors au prix quelquefois d'une souffrance effectivement, mais on peut se rattraper après. Et par exemple pour les prématurés ou les bébés qui pour des raisons médicales, des raisons vitales ne peuvent pas faire le pot à pot, souvent la vraie naissance de la maman, c'est lors du premier pot à pot quand elle va en néonatologie et là qu'elle peut faire le pot à pot avec ce bébé, ça peut être reporté, tout à fait.
Encore une petite question sur les labels, justement, amis des bébés. Est-ce que d'abord, beaucoup de maternités possèdent ce label en France? Est-ce que ce sont les seuls labels est-ce que c'est le seul label qui existe?
C'est le seul label qui est actuellement. Il est question d'en préparer un autre. Mais celui-ci a été bien rodé à travers le monde entier. De nombreux pays du monde l'ont. En Suède, toutes les maternités l'ont. Les pays nordiques, même la Belgique, l'Allemagne, de très
et la France prépare.
Alors la France, on n'a que 32 maternités pour l'instant qui ont ce label. Non, c'est très peu. Alors actuellement, il y a un petit regain d'intérêt et il faut vraiment que les maternités se forment, que les services de néonatologie se forment pour avancer vers cette nouvelle façon d'accueillir les bébés, aussi bien en maternité que dans les services de néonatologie.
Léa nous dit justement, j'ai eu le bonheur de mettre mon fils au monde au Québec, dans une maison de naissance, dans l'eau, sans la présence d'aucun médecin, mais de sage-femme extraordinaire. Pourquoi ce genre de lieu n'existe pas encore en France ?
Alors c'est très difficile en France, ça n'est pas du tout dans notre culture, dans notre histoire. Moi déjà ce que je souhaiterais c'est que la formation des sages-femmes, des soignantes, des pédiatres amène à ce que dans toutes les maternités, on respecte déjà la physiologie et que la médicalisation soit là uniquement quand il le faut et comme il le faut. Bien sûr, les maisons de naissance, mais ça ne sera réservé qu'à un tout petit nombre de femmes qui souhaitent ça, qui veulent ça. C'est très difficile de le généraliser. Il faut une sage-femme qui soit en permanence auprès de cette femme-là. Hélas, ça n'est pas matériellement, dans nos contraintes matérielles économiques actuelles, c'est vraiment difficile. Mais ce que je souhaiterais, et ça c'est certainement réalisable en avançant dans cette ligne, sur cette ligne-là, c'est que toutes les maternités accueillent plus physiologiquement et que la médicalisation ne soit là que quand elle doit être là.
Allez, on poursuit la discussion. Beaucoup de messages pour vous sur le site de la Tête au Carré. Bernadette Lavollet, vous êtes notre invitée avec cet ouvrage « Les vrais besoins de votre bébé ».
L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. Les curés en chaleur, les idoles en pleurs. Les mimes, les boulouches, n'ont que ça à la bouche. À de grâce, arrêtez de vous badigeonner. De cette pub idiote, j'en ai plein la culotte. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. Barre de dégoulinant, scribouillard pleurnichant. Délicat militaire, épargnez nos voglaires. Vénus en statue creuse, mets la dent conveilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Vénus au stade creuse, mais là donc en veilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos.
Et Pipo en 2001, c'était Brigitte Lafontaine sur France Inter. Dans la tête au carré, Bernadette Lavollet, notre invitée avec cet ouvrage donc aux éditions Les Arènes sur les découvertes qui ont beaucoup changé la naissance et les premiers mois justement. On va écouter un autre extrait d'archives justement, celle d'un professeur, d'un docteur, il s'appelle Frédéric Leboyer, gynécologue obstétricien français qui avait écrit Pour une naissance sans violence et il était au micro de Jean-Pierre Elkabbach en novembre 75. Écoutons-le.
La préoccupation de l'accoucheur aujourd'hui concerne, je dirais presque, la sécurité physique d'un enfant, d'un bébé. Et moi, je me suis interrogé sur le chagrin de l'enfant. Et je me suis tout simplement demandé si, dans les cris d'un nouveau-né, que habituellement on prenait pour une simple réaction mécanique, on acceptait l'idée qu'un nouveau-né ne voit pas, ne sent pas, n'entend pas, naturellement n'a aucune vie psychique, qu'une émotion, puisque son cerveau n'est pas encore arrivé à maturité. Je me suis demandé si, en fait, derrière ces cris, il n'y avait pas justement un immense chagrin. Ce qui fait que la naissance est une souffrance, c'est qu'on essaye de faire assimiler à l'enfant, en quelques secondes, toutes les sensations de la vie. On ne se rend pas compte de la richesse de l'expérience, tout simplement. Et si on ne comprend pas qu'il faut donner à cet enfant qui arrive ces nouvelles sensations du monde, progressivement et les unes après les autres, eh bien, on crée dès le début cette réaction de fermeture et de refus. Intérieurement, mentalement, il se replie sur lui-même, il se ferme au monde. Eh bien, si on laisse l'enfant sur le ventre de la mère pendant 2 à 3 minutes, et il ne faut pas le laisser trop longtemps parce qu'il fait froid, et si on le laisse ensuite dans l'eau pendant 2 à 3 minutes encore, ça représente 6 minutes en tout. C'est tout, c'est très simple.
Voilà, Frédéric Le Boyer. Donc ça, c'est en 1975, et je vous vois à nouveau réagir, Bernadette Lavallée, parce que les choses ont évidemment changé hein, depuis ces années-là. Lorsque, justement, le docteur Le Boyer parle de chagrin, on parlerait plus de douleur aujourd'hui quand même.
Oui, oui. Actuellement, on parle beaucoup plus de douleur et de stress au sens global. On sait, le stress, je vous l'ai dit tout à l'heure, est source de conséquences très délétères sur le cerveau, sur tous les organes vitaux. Et alors, ce qu'il dit très bien, c'est que, effectivement, si on lui laisse retrouver toute la sensorialité qu'il avait in utero et qu'on donne ce continuum entre la vie utérine et la vie aérienne, il a tous les appuis pour s'adapter au mieux, et notamment pour la température aussi. Et donc, c'est sur le corps de sa mère, en peau à peau, qu'il va retrouver tout cela. Et ce que nous pouvons faire maintenant, contrairement à l'époque des années 70, c'est concilier la sécurité médicale avec ce peau à peau et avec le bien-être du nouveau-né.
Ce qui est quand même sidérant sur la question de la douleur, c'est de voir à quel point, finalement, on a prouvé scientifiquement que les enfants souffraient.
Oui.
C'est quand même très récent, parce que c'est quoi, c'est les années 90. Hein.
Oui, elle a été niée pendant notamment tout mon clinica, mon internat, mon clinica, on ne parlait absolument pas de la douleur. Et ce qui a beaucoup fait progresser les choses, c'est la néonatologie, les services de prématurés, et où on s'est aperçu effectivement, avec les connaissances scientifiques, des effets du stress et de la douleur sur les fonctions vitales, sur les grandes fonctions physiologiques, et on s'est aperçu que c'était extrêmement délétère, extrêmement négatif. Et donc on s'est mis à avoir des échelles de douleur qui, par les mimiques du faciès, du corps qui se crispe, pouvoir évaluer précisément cette douleur et pouvoir, bien sûr, avec des médicaments, avec des drogues, la maîtriser. Et puis surtout, ce peau à peau, ce respect de la physiologie et de ne déranger un bébé que s'il en a vraiment besoin, ça nous a permis de diminuer ces douleurs, ce stress. Mais moi, en tant que pédiatre, je la ressentais, c'était épouvantable. Quand je devais mettre une perfusion ou faire un prélèvement à un prématuré, j'en avais le ventre tout retourné parce que je la ressentais, mais personne n'en parlait, elle n'était pas du tout reconnue.
Victoire demande quel intérêt apporte l'aspiration qui est effectuée sur le bébé juste après la naissance. Est-ce que ça n'est pas une source de stress inutile?
Bien sûr, c'est contre cela justement que une des choses principales contre laquelle je me suis un petit peu battue et luttée pour changer et qui m'a fait me tourner vers les autres pays et vers les articles scientifiques qui prouvaient que ça avait beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages quand ça n'est pas indispensable pour la survie du bébé. S'il a besoin, bien sûr, de gestes de réanimation à la naissance, s'il est encombré, s'il faut l'aider à respirer, bien sûr, il faut le faire. Mais 90% des nouveau-nés n'en ont pas besoin et c'est bien contre ces gestes. La médecine est là, justement, pour tout le temps peser la balance bénéfice-risque.
Justement, Audrey nous dit, à l'inverse peut-être de beaucoup d'auditeurs, je m'inquiète d'une certaine tendance à la renaturalisation de l'accouchement. Votre invité appelle de ses voeux à plus de respect de la physiologie dans les maternités. Ça me paraît très bien, mais pourra-t-on encore dans 10 ans accoucher sous péridurale, matériellement et sans la réprobation générale? J'ai accouché 2 fois avec péridurale, 1 fois sans, et franchement je me demande pourquoi on se l'infligerait ça volontairement. Demande-t-on à un homme qu'on opère de faire du yoga à la place d'une anesthésie?
Alors, il faut écouter d'abord ce que la maman a comme souhait, comme désir, comme représentation. Si pour elle, la douleur est quelque chose d'envahissant et inhibiteur, si je puis dire, de toutes ces facultés, mais on a d'autres méthodes, d'autres moyens. Moi, je m'inquiéterais beaucoup d'une civilisation où les femmes accoucheraient en énorme majorité avec une péridurale et qu'elles ne sachent plus accoucher physiologiquement. Là, je pense que sur le plan de l'évolution de l'être humain, il y a une question à se poser. Si toutes les femmes ont une césarienne césarienne ou accouche sous péridurale, que deviendra l'humanité si la femme ne peut plus accoucher physiologiquement? Bon, ça c'est une question très philosophique à long terme, mais ce qu'il faut, c'est retrouver les ressources, la puissance, la force et les capacités. Et cette douleur, c'est un atout pour la plupart des femmes, et atout qu'elles peuvent maîtriser, qu'elles peuvent gérer parfaitement, à condition qu'elles soient bien accompagnées.
Juliette nous dit « J'ai accouché 6 fois à la maison et j'en garde des meilleurs souvenirs de ma vie. J'ai été traitée d'inconsciente par quelques personnes, mais j'avais confiance dans la nature et dans mon corps. Tout s'est très bien passé dans l'intimité familiale. Je n'étais qu'à 12 kilomètres d'une maternité en cas de problème, mais je n'ai pas eu besoin justement d'y avoir recours.
Oui. » Oui, et beaucoup de pays, en Hollande, beaucoup de femmes accouchent à la maison.
Comme vous d'ailleurs, Bernadette Lavollet. Hein.
Non.
Enfin, vous êtes née à la maison.
Je suis née, moi,
à la
oui,
maison.
Mais...
Vous êtes née à la maison.
En 1949, mais actuellement, on n'est pas tout à fait prêt à cela pour de très nombreuses raisons. Mais c'est vrai que idéalement, c'est bien. Mais il faudrait pouvoir offrir ça aussi dans nos maternités, sans mettre tous les gestes et tout le stress et toute la médicalisation si ça n'est pas nécessaire.
On va écouter un document étonnant, ce qui se passait à Pithiviers en 1976. Vous nous resituez justement cette maternité ?
Oui, c'était en région parisienne, il y avait la maternité des Lilas qui était réputée être très... On ne disait pas écolo à l'époque, mais enfin très...
Avant-gardiste,
et post-68 tard.
Ouais.
Et puis,
Pithiviers,
qui est dans le Loiret. Et, bon, j'y étais installée une quinzaine d'années, pas loin du tout, donc j'ai eu beaucoup de
d'écho, patientes qui étaient là-bas.
Oui, alors là, on passait d'un excès à l'autre. Alors,
on va écouter justement, parce qu'on va très très bien comprendre au son de la musique ce qui se passait
à
Pithiviers.
Les copains.
C'est ça, en 1976.
Dans cette salle de la maternité de l'hôpital de Pithiviers, à une trentaine de kilomètres d'Orléans, ce bébé vient de naître dans des conditions qui font encore scandale dans les milieux médicaux. En fond sonore, un disque qui reproduit les 4 notes monocordes mais apaisantes, pas ou peu de bruit ni de gestes inutiles, une atmosphère paisible, feutrée. Pas de lumière vive, l'enfant est accueilli dans la pénombre. Mais surtout, dès les premières secondes, il est à nouveau en contact avec sa mère, qui le reçoit sur son ventre. Pendant de longues minutes, le bébé va s'habituer à son nouveau milieu grâce aux lentes caresses et au son de la voix de sa mère et même de son père quand celui-ci peut assister à la naissance. Quant au cordon, il sera coupé le plus tard possible, dès qu'il ne sera plus un relais vivant entre la mère et l'enfant. Et l'hôpital de Pithiviers est en France le premier hôpital à mettre en pratique cette nouvelle conception de la naissance, malgré les objections des médecins accoucheurs qui pratiquent l'accouchement traditionnel. La violence de la naissance est pour eux une violence négligeable par rapport aux agressions que l'enfant va devoir affronter durant toute sa vie.
Bernadette Lavollet, ça fait hurler, on imagine, dans les années 70, hein, ce type de maternité,
oui,
non ?
Oui, mais je pense que ces mouvements ont... Bon, c'est le balancier hein, qui passe d'un excès à l'autre. Bon, ça a fait avancer, ça a fait prendre conscience effectivement de ses besoins fondamentaux peut-être, mais dans un excès, c'est un petit peu caricatural. Actuellement, justement, les hôpitaux amis des bébés ont concilié à la fois sécurité et bien-être et respect. Et voilà.
Pithiviers qui a fermé il n'y a pas longtemps d'ailleurs.
Oui.
Vous donniez des formations encore là-bas,
il y a quelques
années à peine.
Oui.
Lucille sur Facebook nous dit « À la maternité, les sages-femmes m'ont demandé de noter sur une feuille les tétés en respectant un écart de 4 heures entre chaque tété, le temps de chacune d'elles. Je n'ai pas pu faire autrement que tricher sur la feuille. J'ai nourri mon enfant à l'instinct dès que je sentais qu'il en avait besoin. Ai-je eu tort ?» demande Lucille.
Mais non, bien sûr, vous avez eu tout à fait raison et je pense que vous êtes tombé justement sur une maternité, sur une soignante qui n'avait pas été formée. On reste figé dans les schémas des années, justement, des années 60, 70, 80 et actuellement, toutes les études et toutes les recherches et toute la science sur l'allaitement ont montré que ça n'est pas du tout ces horaires, cette régularité, et qu'au contraire, ce qui est merveilleux, c'est que la science rejoint les traditions de la plupart des pays qui ont toujours pratiqué l'allaitement.
Mathilde demande, est-ce que la désinformation des professionnels de santé sur l'allaitement n'est pas justement une forme de violence périnatale pour les mères et les bébés? On terminera avec ça.
Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut que les soignantes se forment. Elles répondent sans connaissance, elles disent leur vécu ou leurs idées reçues. Voilà, il faut des connaissances qui remplacent maintenant le savoir-faire que nous avons perdu depuis les années 70.
Et en attendant, vous poursuivez toujours vos formations partout en France, vous n'arrêtez
J'y
pas.
J'y vais là tout à l'heure, je pars et la semaine prochaine aussi, aux quatre coins de la France, et j'aime ça.
Ça vous rend très heureuse.
Oui, très,
et ça sent.
Merci.
Merci beaucoup, docteur Bernadette Lavolet. Ça s'appelle « Les vrais besoins de votre bébé ». Ce sont les découvertes qui révolutionnent la naissance et les premiers mois. Le livre qu'il faut lire pour les jeunes parents, et c'est aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup à vous d'être venu cet après-midi.
Merci,
dans la
Mathieu.
Tête au carré. Ainsi s'achève cette émission. Merci à Guillaume Roux et Grégory Wallon qui étaient aujourd'hui à la technique. Demain, un débat autour du cancer du sein.
Un très grand salon.
Une deuxième chambre.
Un très grand salon.
Bon, dans tous les cas, ici, c'est la salle de bain.
Chez Cogedim, vous pouvez personnaliser chaque mètre carré de votre futur investissement dans le neuf.
Enfin, la salle d'eau. Tout le monde préfère les douches à l'italienne maintenant.
Mais non, salle de bain avec une grande baignoire.
Une douche.
Le plus dur, c'est encore de se mettre d'accord. En devenant propriétaire d'un appartement neuf Cogedim, vous pouvez optimiser chacun de vos mètres carrés pour mieux y vivre ou mieux louer. Et jusqu'au 10 juillet, profitez d'offres exceptionnelles. Vous verrez la différence. Cogedim. Plus d'infos sur cogedim.com.
Allez, démarre. Eh ben non.
Ah, oh, le bonheur d'une voiture qui démarre le matin. D'une berline qui ne fume pas. D'une citadine qui ne connaît pas le garagiste. Ou d'un break qui consomme moins. Ces bonheurs simples, vous pouvez y accéder grâce à la prime à la conversion de l'État pour l'achat d'une voiture moins polluante. Jusqu'à 2 500 €, sous condition de mise au rebut de votre vieux véhicule.
Sur primealaconversion.gouv.fr, découvrez les conditions d'éligibilité et le montant de la prime applicable. Ceci est un message du ministère de la Transition écologique et solidaire.
Il a la mine de l'homme réjoui qui a passé un bon week-end. Fabrice Rouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidal.
Prêt à reprendre les commandes d'Affaires Sensibles dans un instant.
Absolument. Dites-moi, la science, votre terrain de jeu favori, est belle parfois quand elle n'apporte pas de réponse.
Ah oui, c'est vrai.
C'est le cas avec les extraterrestres. Je vais vous parler d'une histoire d'extraterrestres. Enfin, supposée, présumée, une apparition le 1er juillet 1965 à Valensole. Et notre invité, c'est le sociologue Arnaud Esquer, auteur de la théorie des événements extraterrestres.